Le passage, c'est vrai que nous avons devant nous, il n'est plus là, mais enfin, je vais peut-être quand même lire la première partie de ce passage qui n'a pas été lu, c'est-à-dire à partir d'Éphésiens 5, verset 4, verset 25, c'est bien sûr dans la suite des messages sur Éphésiens que l'Église est en train de suivre depuis quelques semaines. Donc j'espère que la dernière fois, vous avez eu jusqu'à Éphésiens 4, verset 24. Est-ce que c'est le cas? Donc, parce que là, je vais supposer que vous avez déjà vu ces versets. Mais je vais lire quand même les versets 25 à 30. Parce que mon message aussi porte sur ces versets aussi bien que sur 31 et 32 et 5, 1 et 2. Donc, ce n'est pas tout à fait le même texte que vous avez, mais je pense que vous allez suivre, c'est assez proche. C'est pourquoi rejetez le mensonge, vous débarrassant du mensonge. Mais la traduction que j'ai, c'est un peu plus fort. Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres, même corps, le corps de Christ. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Ça va. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobe, qui dérobait, ne dérobe plus, mais qui prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement avec ses mains, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et puis le passage continue donc, que toute amertume, animosité, colère disparaissent, etc. Et pardonnez-vous les uns les autres. Nous allons prier le Seigneur avant d'aborder ce passage. Merci Seigneur parce que tu nous mets dans ta parole des passages qui sont très pratiques, qui sont là pour nous encourager à aller de l'avant, qui sont là pour mettre le doigt aussi sur nos faiblesses, mais pas simplement pour, semble-t-il, nous fouetter pour nos fautes, mais qui sont aussi là pour nous aider à savoir ce qu'il faut faire et comment aller de l'avant avec toi. Je te remercie, Seigneur, pour la portée de ces paroles dans ce passage. Je prie que tu m'aides à être ton interprète. Je prie, Seigneur, que tu me remplisses de ton esprit pour l'annonce de cette parole. Je prie aussi que ton esprit ouvre l'entendement de chacun de nous pour que nous puissions accepter, recevoir, entendre cette parole comme pour nous, pas simplement de nos oreilles, mais que notre cœur l'entende pour que nous puissions la mettre en pratique. Merci encore, Seigneur. Nous comptons sur toi et je te bénis au nom du Seigneur Jésus. Amen. La recherche de l'épanouissement est un vrai phénomène de notre époque. Alors, je ne sais pas si vous suivez des sondages, mais j'ai regardé sur le web. C'est fantastique. On est vers le web quand j'ai commencé à prêcher il y a plus de 50 ans maintenant. Ça n'existe pas, évidemment, mais c'est très facile maintenant de trouver des choses qui ont une portée pour la prédication. Et j'ai trouvé que selon une étude qui a été publiée déjà en 2008, ça remonte à 7 ans maintenant, que 93% des Français se déclaraient épanouis. Il faut dire que 58% dans ces 83 se disaient plutôt épanouis. Donc il y avait des réserves quand même. Ça, c'était avant la crise de 2008. Et le taux de chômage d'aujourd'hui. Donc, le sondage n'est pas tout à fait à jour. Et cette étude est en contradiction avec d'autres études qui indiquent que les Français ne sont pas si satisfaits que cela. Bon, je me rends compte que je suis dans une église française, je ne sais pas, mais je vous assimile quand même, je nous assimile tous à la culture française pour aujourd'hui. D'ailleurs, Joyce et moi sommes français par naturalisation, donc c'était notre choix de devenir français, et nous figurons parmi les Français qui se sentent épanouis. Mais que veulent dire ces sondages? D'autres disent que non, les Français ne sont pas satisfaits. Il vous arrive d'entendre la grogne là autour de vous? Oh. On dit que les Parisiens sont des champions de la grogne. Alors, beaucoup de gens souhaitent le changement. On entend ça. Il faut changer les choses. Il faut changer les choses. Donc, il y a un gouvernement qui arrive, qui dit « on va changer ». Et puis, les gens disent « non, il ne faut pas changer ». Parce qu'on a peur du changement. On a peur que ça va enlever nos acquis sociaux qui sont tellement sacrés pour nous. Il ne faut pas toucher à ça. La plupart des jeunes aujourd'hui sont frustrés. Je parlais hier à mon voisin qui est un jeune adulte. Il dit, moi, je quitte la France parce que la France est pourrie. Il n'y a rien à faire ici. Bon, blablabla. Bon, mais j'ai entendu ce discours déjà. Et une autre étude dirait que les élèves français seraient les plus malheureux au monde. J'ai du mal à le croire. Mais je sais que j'ai eu un email cette semaine de ma petite fille qui a 13 ans, qui est catastrophée par le changement qui aura lieu dans son collège avec la réforme des collèges. Sa classe va disparaître et ce ne sera pas du tout la même chose qu'elle avait avant. Elle est complètement troublée par cela. Vous voyez. Où se trouve la personne épanouie en France aujourd'hui, la personne qui est contente, satisfaite et qui va de l'avant? Observez votre entourage et vous pourrez constater combien de gens sont vraiment épanouis dans leur vie de tous les jours et combien ne le sont pas ou le sont peu. Le gros problème est que la plupart de nos concitoyens cherchent l'épanouissement dans les choses qui sont éphémères. Il y a certainement une sorte d'épanouissement pour beaucoup autour de nous. Quand je zappe la télé, ce n'est pas des émissions que je regarde, mais je vois des gens rire, je vois des gens qui sont en train de faire toutes sortes de choses, des bêtises et tout ça, ils rient, etc. Ils boivent, ils se droguent même. Et qu'est-ce qu'il y a le lendemain? La gueule de bois. Ça ne dure pas. Ça se passe bien la veille, mais le lendemain, on se réveille et puis c'est toujours la même chose. Rien n'a changé. Il y a certainement une sorte d'épanouissement, mais trop souvent, c'est un épanouissement superficiel, d'un moment, un épanouissement qui ne dure pas. Alors, Dieu n'est pas du tout contre notre épanouissement. Au contraire, pourquoi pensez-vous que Jésus est mort pour nous? Pour que nous soyons épanouis, entre autres choses. C'est Dieu qui désire plus que quiconque que ses enfants mènent une vie dans la plénitude. Seulement, la vie épanouie qu'il propose n'est pas tout à fait ce que notre monde propose et fait miroiter devant nous. Argent, succès, relations, surtout dans le domaine de la sexualité. Je reçois, je ne sais pas, moi j'ai 77 ans, je reçois toutes sortes de trucs, de filles, je ne sais pas, je suppose absolument fantastiques, qui veulent me contacter pour avoir une relation avec moi. Bon, mais évidemment, ça va à la trappe tout de suite. Bon, je n'ai pas besoin, même si j'étais seul, donc ça ne m'attirerait pas. Non, mais on nous fait miroiter des relations, le pouvoir, l'influence et même l'avancement culturel. Notre monde propose toutes sortes de solutions pour trouver l'épanouissement, mais elles restent le plus souvent dans ce qui est superficiel et éphémère. Par contre, Dieu nous propose une vie de véritable épanouissement, une plénitude durable et satisfaisante qui ne fera jamais défaut. Ce que Dieu nous propose est solide et éternel. Il ne faut jamais l'oublier. En plus, cette vie est accessible à tous ceux qui mettent leur foi en lui. Reste à voir si on réussit à prendre cette vie qu'il nous donne ou si on reste dans les chrétiens qui ont la possibilité, mais qui mènent une vie de pauvreté spirituelle par ignorance ou même par volonté. Le passage devant nous ce matin, donc Éphésiens 4, 5 à 5, 2, nous donne des clés très précises pour vivre la vie épanouie que Dieu désire pour nous. Alors, je vais aborder ce passage et ces clés en divisant ce passage en deux parties. D'abord, les versets 25 à 32, et brièvement, à la fin, les versets 5, 1 et 2. D'abord, les versets 25 à 32 nous donnent une série d'exhortations opposées, je l'appelle, pour, je ne sais pas pour quelle raison, mais ce sont des exhortations opposées pour nous aider à vivre dans le véritable épanouissement. Qu'est-ce que je veux dire par opposé? Rejeter, mais fait autre chose. Donc, il y a le négatif suivi du positif dans... Il y a cinq domaines où c'est le cas. Donc, pour bien comprendre la situation du chrétien face à ces oppositions, il faut noter les premières paroles de Paul au verset 25. C'est pourquoi. Alors, quand on commence un passage et on lit « c'est pourquoi », ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé avant qu'il faut savoir. Vous l'avez vu la semaine passée, je pense. Mais c'est surtout les versets 21 à 24. C'est pourquoi, cela veut dire qu'il faut tenir compte de ce qu'il vient de dire. Alors, pourquoi, dit Paul? C'est parce que le chrétien, en principe, et selon les versets 21 à 24, s'est dépouillé de la vieille nature. La vieille nature, Dieu l'a mise à la poubelle. Et il nous a donné une nouvelle nature, une nature qui ne peut pas pécher. Je dis, mais quand même, si j'ai cette nature, alors pourquoi est-ce que je continue à pécher? Bon, on va voir ça un petit peu. Donc, il est renouvelé dans son intelligence. Il s'est revêtu de la nouvelle nature, une nature qui est juste et sainte. Et si un jour vous tombez dans le péché, ce qui va certainement arriver parce que nous ne sommes pas encore parfaits, ce n'est pas la nouvelle nature qui tombe dans le péché. Rassurez-vous, la nouvelle nature ne peut pas pécher parce qu'elle est créée dans une justice et une sainteté que Dieu nous donne. Et ce fait ouvre pour le chrétien toute la possibilité d'une vie dans l'épanouissement que Dieu désire pour nous parce que Dieu nous a donné une nouvelle nature. Il n'a pas désiré, il ne s'est pas contenté de retaper votre vieille nature. Il a dit, elle est bonne pour la poubelle. Je me souviens une fois, j'avais amené une paire de chaussures au cordonnier pour Joyce. C'était les chaussures de Joyce qui étaient bien usées. Il les a regardées et il a dit simplement un mot, poubelle. Bon, mais quand Dieu regarde notre vieille nature, c'est ce qu'il dit. Il dit poubelle, parce que c'est là où elle doit être. Et il le fait. Seulement nous ne vidons pas notre poubelle, nous ne la portons pas pour que les éboueurs en finissent une fois pour toutes, et nous revenons sur des choses du passé, et c'est ça qui nous fait tomber dans le péché. Ce qui est triste, c'est que trop souvent, nous vivons selon les instincts de cette vieille nature, parce que ça reste en nous, ces instincts que nous avions autrefois, qui n'est pas la nature du chrétien. Et c'est pour cela que Paul donne cinq exhortations contrastées ou opposées dans les versets 25 à 32. Rappelez-vous que Paul parle ici à une église. C'est ça qui est horrible. Il parle à une église. Et quand nous passons en revue ce qu'il a dit à cette église, ben c'est étonnant. Si moi, je venais dans l'église ici pour vous dire les choses que Paul dit, probablement, je ne serais jamais plus invité à revenir parce que c'est assez grave ce que nous trouvons dans ces versets. Mais il parle à des chrétiens qui ont besoin de mettre de l'ordre dans leur vie. Et la première chose qu'il dit au verset 25, « Rejetez le mensonge et que chacun de vous parle avec la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Paul dit, « Mais arrêtez de mentir. Arrêtez de mentir. Est-ce que vous avez l'habitude de mentir à vos frères et sœurs en Christ ?» Mais Paul dit, « Arrêtez de mentir. Le mensonge fait des dégâts terribles, surtout dans la famille de l'Église. En plus, le mensonge est un cercle vicieux. Plus on ment, plus on est obligé de mentir pour continuer la déception. Paul nous demande de dire la vérité, tout simplement. Nous sommes membres d'un même corps, d'une même famille, et c'est une façon de respecter cette vie dans la famille de Dieu. Je connais des familles où on se ment les uns aux autres. Et on peut appeler ces familles des familles dysfonctionnelles. Attention, dire la vérité ne veut pas dire manquer de sagesse, d'amour et de tact, de dire n'importe quoi parce que c'est la vérité. Si je rencontre une dame qui est la plus vilaine que j'ai jamais vue de toute ma vie, je ne vais pas lui dire ben, « Bonjour madame, mais dis donc, qu'est-ce que tu es moche ?» C'est peut-être la vérité, mais je n'ai pas besoin de le dire. Non, il y a des vérités peut-être qu'il faut garder pour soi-même, n'est-ce pas? Il y a aussi la loi de l'amour et du respect de l'autre. Ensuite, après le mensonge, c'est déjà quand même dans une église, Paul nous met en garde contre les méfaits de la colère. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne se couche pas sur votre irritation, ne donnez pas accès au diable. On pourrait comprendre par ce verset qu'on peut se mettre en colère sans pécher. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Il est vrai qu'il y a une indignation qui ressemble à la colère et qui n'est pas péché. Si je vois un caïd en train de taper sur une vieille dame pour lui voler son sac à main, cela provoquerait certainement la colère de l'indignation. Mais il est très difficile de savoir quand nous avons franchi la ligne entre l'indignation juste et la colère personnelle. Donc, le mieux, c'est de ne pas se mettre en colère. Je ne sais pas si nous sommes vraiment capables de savoir la colère où on ne pêche pas. Moi, je n'ose pas, parce que je crains que quand je me mets en colère, ça m'arrive beaucoup moins maintenant que par le passé. Mais il y a quand même l'irritation, et le mot qui est dans ma Bible est irritation, je ne sais pas si votre colère, moi, sur votre irritation, ça me parle même plus, parce que j'ai tendance à penser que l'irritation n'est pas la colère. Bon, mais apparemment, c'est le même mot dans le grec. Hein? S'il y a irritation, et cela nous arrive, Paul dit de régler les choses avant de s'endormir. Et pourquoi? Ben, je vous dis pourquoi. Parce que même dans notre sommeil, notre esprit rabâche ce qui nous a irrités ou offensés ou blessés. Et le lendemain, la situation est pire. Alors, j'espère que vous prendrez ma parole comme étant juste, parce que ça a été mon expérience. Et je sais qu'en me couchant à côté de ma chère épouse, avec quelque chose dans mon cœur, une irritation, et je suis là comme une sorte de planche dans le lit, Et évidemment, oui, on prie, bien sûr, on prie toujours avant de se coucher, mais bon. Mais si quelque chose ne va pas, vous savez, le lendemain, ça va être pire. Nous avons appris, Joyce et moi, et en général, c'est moi qui ai besoin de le faire, qu'il faut régler ça avant de dormir. Il y a eu des matins, des nuits, où à 2 heures du matin, on a finalement réglé l'affaire. Mais on a dormi paisiblement. Et le matin, ce n'était plus là. La Bible est très sage. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère. Garder la colère conduit à l'amertume et à la rancune. Et ça donne accès à Satan. Nos colères, nos amertumes, nos rancunes ouvrent la porte à Satan. Satan connaît nos points faibles et Paul nous dit au verset 27 de ne donner aucune place au diable. Et moi, je vous dis aujourd'hui, fermez la porte à Satan. C'est clair, il n'a rien à voir dans votre vie et dans ma vie. La troisième exhortation est même étonnante dans l'Église, au verset 28. Que celui qui dérobe ne dérobe plus, mais qui prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Arrêtez de voler. Bah, dans une église, il y a des voleurs dans l'église. Wow, apparemment, il y avait à Éphèse. Et pourtant, j'ai connu des situations, même en France, où l'on a volé dans la caisse de l'église. Des trésoriers malhonnêtes. Ou des trésoriers bien pensants qui pensaient qu'ils pouvaient aider des gens en volant dans la caisse, c'était pas pour eux, mais je connais pas la situation de l'église de Saint-Maur. Bon, mais ne gardez pas le trésorier. Bon. Vivre en prenant les biens de l'autre déshonore le Seigneur, et ceci s'applique. Attention, parce que là, je vais marcher sur les pieds de certains. Excusez-moi, ce n'est pas volontairement, mais je vais le dire. Ceci s'applique aussi au temps que nous volons à notre employeur en faisant des choses personnelles et non autorisées, parce qu'il y a des choses personnelles autorisées, mais personnelles et non autorisées pendant les heures de travail. Autrement dit, on est payé pour tant d'heures de travail. Et l'employeur ne les a pas. Là, je vais aller plus loin. Aïe. Question embêtante. A-t-on le droit de réutiliser le timbre poste non oblitéré qui arrive dans notre courrier? Ce timbre a déjà été utilisé pour envoyer une lettre. Alors, est-ce que c'est voler la poste? De réutiliser ce timbre. Ça arrive beaucoup moins avec les emails, mais ça peut arriver encore quand même. Et je pense, j'ai décidé à un moment donné, parce que moi je le faisais, mais j'ai décidé que ma conscience vaut mieux que le prix d'un timbre poste. Et pour être en clair avec Dieu, je ne devrais pas le faire. Bon, je ne vous impose pas de le faire, hein, mais... Je vous explique ce qui m'est arrivé. Non, Paul nous demande de travailler pour subvenir à nos besoins et non pas de voler pour vivre. Ensuite, quatrième chose, nous arrivons à l'une de ces exhortations les plus importantes pour nous dans nos églises, au verset 29. Qui ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, mais s'il y a lieu, et il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Attention, dit Paul, à ce qui sort de votre bouche. Alors, il y a des gens qui ont moins souvent ce problème que d'autres. Mais je suis malheureusement dans le domaine des grands bavards. Et j'ai plus de problèmes dans ce domaine parce que plus on parle, plus on risque de se planter dans ce qu'on dit. Et Paul parle de paroles malsaines. En réalité, il veut dire toute parole qui n'est pas juste et appropriée pour les circonstances, que ce soit vrai ou faux. Cette parole est peut-être vraie, mais est-ce une parole saine dans la situation présente? C'est encore une raison de ne pas se mettre en colère. Les paroles qui sortent de notre bouche dans la colère font souvent beaucoup de dégâts. Est-ce que vous avez constaté ça? Heureux êtes-vous si vous n'avez jamais vécu cela. Mais bien plus d'une fois, j'aurais aimé reprendre la parole qui a été dite. Et une fois que la parole est sortie de la bouche, on ne peut jamais la reprendre. Donc, veillez à ce qu'aucune parole malsaine, aucune parole qui n'est pas appropriée et juste, ne sorte de notre bouche. Jacques nous dit que la parole est un feu, un monde de l'injustice qui souille tout le corps et embrase tout le corps de l'existence, embrasée elle-même par l'enfer. C'est fort. Nous savons tous tout le mal qu'une parole malsaine peut faire. Et une fois dite, on ne peut pas retirer la parole, comme j'ai dit. C'est pour cela que Paul nous exhorte à dire la bonne parole ici, la parole qui sert à édifier ou à construire l'autre. Édifier, ça veut dire construire, aider, aider la personne à avancer et qui communique une grâce à ceux qui l'entendent. Si vous êtes connu à une personne qui, par votre parole, apporte une grâce aux autres, vous êtes bénis. Soyez des personnes qui apportent la grâce par la parole qui est donnée. Soyons de ceux qui font avancer nos frères et sœurs par la bonne parole. La dernière exhortation de Paul est de ne pas attrister le Saint-Esprit de Dieu. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, verset 30, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et puis il dit que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute méchanceté soit ôtée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Christ. C'est par le Saint-Esprit que Dieu nous a scellés pour le jour de la rédemption. Nous ne devons pas l'attrister. Si nous attristons le Saint-Esprit, il ne peut pas agir pour nous aider à vivre dans l'épanouissement et la plénitude, parce que son action est bloquée. Si nous attristons le Saint-Esprit, il est immobilisé en quelque sorte. Il ne peut pas nous aider à vivre dans l'épanouissement. Nous le bloquons. La liste des choses qui peuvent attrister le Saint-Esprit n'est pas très édifiante et elle est incomplète ici. Il y en a d'autres choses qu'on peut rajouter. Amertume, animosité, colère, encore colère, clameur, calomnie et toute méchanceté. Bon, il groupe tout le reste là-dedans. Tout cela doit être enlevé de notre vie. Parce que si ces choses existent dans notre vie, le Saint-Esprit est bloqué, nous avons fermé la source de sa puissance dans notre vie. À sa place, nous retrouvons la bonté envers les autres, la compassion, le pardon, tout comme Dieu nous a pardonné en Christ. Alors, comment voulez-vous que nous ne puissions pas pardonner à quelqu'un quand Dieu nous a pardonné des millions de fois, des choses beaucoup plus graves que la personne en face de nous qui aurait peut-être mal agi envers nous. C'est en vivant par le Saint-Esprit que nous arriverons à vivre la plénitude et l'épanouissement que Dieu désire pour nous. Alors vous allez me dire, écoute, vivre cela est au-dessus de mes forces. Je ne peux pas. C'est au-dessus de ma capacité. C'est vrai. Je suis d'accord avec vous. Et c'est pour cela que Dieu nous a donné une nature complètement nouvelle, comme nous avons étudié, vous avez étudié au verset 21 à 24. Il nous a donné une nature qui est complètement nouvelle, renouvelée par l'Esprit dans notre intelligence. nous sommes revêtus de la nature nouvelle, créée selon Dieu dans une justice et une sainteté qui reproduit la vérité. Il s'agit de laisser Jésus vivre sa vie à travers nous et de ne pas attrister le Saint-Esprit et bloquer son action en nous. Parce que c'est Jésus qui va vivre cette vie à travers nous. Nous sommes trop faibles pour vivre les versets 25 à 32. Mais Jésus en nous peut le faire. Et la clé de tout cela, je reviens au verset 27, c'est de fermer la porte à Satan. Si vous laissez la porte même entrouverte à Satan, croyez-moi, il va trouver l'entrée. Il va s'infiltrer dans votre vie. Il connaît vos points faibles. Il va en profiter et vous n'aurez pas la vie de plénitude, la vie épanouie que Dieu veut vous donner. Ne lui donnez aucune place dans votre vie et le Saint-Esprit agira. Très brièvement, le véritable épanouissement vient en étant des imitateurs de Dieu. Soyez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés et marchez dans l'amour de même que le Christ nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. C'est facile à dire, mais comment pouvons-nous être des imitateurs de Dieu? D'abord, si vous voulez être imitateur de Dieu, il faut savoir ce qu'il dit au verset premier, comme des enfants bien-aimés. Il faut savoir que vous êtes bien-aimés. Saviez-vous ça? Mais vraiment, est-ce que vous avez l'impression d'être vraiment aimé? Il y a des gens qui grandissent dans ce monde qui n'ont jamais eu l'impression d'être aimés par qui que ce soit. L'une des maladies du siècle est que tant de gens ont grandi en pensant qu'ils ne sont pas aimés, qu'ils ne sont pas, même pas dignes d'être aimés. Trop de parents ne savent pas communiquer l'amour et l'acceptation à leurs enfants. De les mettre en valeur de la bonne manière. On peut les mettre en valeur de la mauvaise manière, mais de vraiment les mettre en valeur de la bonne manière. Les dégâts du manque d'amour sont considérables. Il conduit à un grand nombre de dysfonctionnements et même de crimes dans la société actuelle. Le manque d'amour. Mais en tant que chrétiens, nous sommes enfants de Dieu, c'est-à-dire ses enfants bien-aimés, ne l'oubliez jamais, vous avez de la valeur et vous êtes aimés. Que personne ne vous dise que vous n'avez pas de valeur. Vous savez comment je sais que vous avez de la valeur? Parce que Jésus est mort pour vous. Ah non, mais vous n'étiez pas digne qu'il meure pour vous. Mais vous avez de la valeur parce que Dieu a dit, j'aime cette personne et je vais envoyer mon fils mourir pour elle. Dieu nous a donné la plus grande valeur qu'on puisse connaître en envoyant son fils. Nous ne le méritons pas, mais il nous aime. En tant qu'Église, nous avons besoin de renforcer cet amour, exprimer l'amour et l'acceptation à tous ceux que le Seigneur nous envoie. Oh, il y a des personnes qui sont difficiles à aimer, franchement. Mais Dieu nous demande de les aimer. Et vous savez, l'amour transforme. Est-ce que vous avez vécu cela? Est-ce que vous avez observé cela? Savoir que nous sommes aimés nous permet de vivre ce que Paul nous exhorte au chapitre 4 dans les versets que nous avons vus auparavant, justement parce que nous sommes transformés pour ressembler de plus en plus à celui qui nous a aimés. Nous sommes aimés et nous rayonnons son amour pour nous. Nous devenons ses imitateurs, nous lui ressemblons. Alors vous allez me pardonner cette illustration, mais même les contes de fées ont compris cela. Oui, l'amour persévérant de Belle a transformé la bête. Et dans la Reine des Neiges, non, il y a là dans la Reine des Neiges quelque chose de très, très biblique. L'amour persistant, fidèle et pur d'Anna a transformé sa sœur Elsa et l'a libérée de la malédiction qui était sur elle. C'était un amour qui a transformé. Bon, mais l'amour de Dieu qui nous transforme est la plus belle et la plus vraie de toutes les histoires d'amour. Et ça, ce n'est pas un conte de fées. Ça, ce n'est pas un conte de fées. Et c'est là-dedans. Et vous savez pourquoi ces contes de fées étaient inspirés de cette manière-là? Ça vient de là. Parce que c'est là où on voit la valeur de l'amour et la puissance transformatrice de l'amour. Être imitateur de Dieu nous permet de marcher dans l'amour, au verset 2, de vivre une vie d'amour. Jésus a dit que deux commandements sont les plus grands, aimer Dieu de tout son être et aimer son prochain comme soi-même. Mais encore, cette question se pose, comment puis-je vraiment vivre une vie d'amour? Comment vivre l'amour? Et la réponse se trouve au verset 2. C'est en acceptant l'amour de Dieu et en suivant l'exemple de Jésus qui est la démonstration par excellence de l'amour de Dieu pour nous. Jésus a donné sa vie. Il a donné sa vie pour vous. Dieu ne demandera pas cela à la plupart d'entre vous. Mais Dieu ne demande pas forcément de mourir, mais de vivre pour lui et de vivre pour les autres. Je me souviens d'un article que j'ai lu il y a bien des années dans une revue chrétienne qui parlait de relations entre mari et femme. Et bien sûr, tous les maris dignes du nom vont dire à leur femme, « Je suis prêt à mourir pour toi. » Bon. Et là, il y avait l'image, un dessin du mari qui est là dans son armure, prête à défendre la famille, à mourir pour la famille. Et l'auteur a dit, c'est pas tout à fait ça, c'est trop facile. Et l'image suivante montrait ce cavalier dans son armure avec un torchon de vaisselle en train de faire la vaisselle pour sa femme. Parce que souvent, la femme, elle en a jusque-là d'entendre « Je suis prête à mourir pour toi. Quand est-ce que tu es prête à vivre pour moi ?» Quand est-ce que nous sommes prêts à vivre pour Dieu, à vivre vraiment pour lui, en réponse à son amour pour nous? Que Dieu nous aide à suivre ces sages exhortations de Paul au chapitre 4, qui nous aide ensuite à imiter Dieu et à vivre dans l'amour qu'il a donné justement pour vivre pour lui dans un monde qui a tant besoin du véritable amour. Amen.